On ne peut pas avoir une vie de prière libérée, épanouie, authentique, efficace, pleine d'assurance, si on n'a pas eu cette révélation du Père. Le Notre Père, si on le lit attentivement, il pourrait paraître un petit peu dur, voire même un petit peu injuste d'une certaine façon. Parce que moi, je suis là devant Dieu, je viens, j'ai des besoins qui sont importants ou urgents, parfois urgents et importants, des besoins légitimes, il y a toutes sortes de besoins. Je suis là devant Dieu avec mes besoins, et la première chose que Jésus enseigne, c'est que d'abord le nom de Dieu, d'abord le règne de Dieu, d'abord la volonté de Dieu, et ensuite, en deuxième partie, viennent seulement mes besoins spirituels et matériels, résumés dans ce « pardonne-nous », résumés dans ce « donne-nous notre pain ». On pourrait se dire « c'est un petit peu dur, parce que Dieu est au ciel, lui il manque de rien, il a tout ce qu'il faut ». Il est quand même entouré de myriades d'anges qui le louent en permanence, et Dieu dans le ciel, 24 heures sur 24, est servi. Lui, il ne souffre de rien, il est atteint par rien. Moi, je suis là sur la terre, j'ai mes misères, j'ai mes problèmes, j'ai une tonne de difficultés. Parfois, ce n'est pas une par semaine, parfois c'est deux, trois dans la semaine. Vous n'avez même pas fini de régler un problème. Vous en avez un deuxième, un troisième qui arrive, et ça vous fait comme des vagues comme ça dans la tête. Pardonnez-moi, un bam, 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 vous vous êtes encore pris ça cette semaine. Et puis Jésus dit, quand tu pries, tu vas d'abord t'occuper du nom de Dieu, tu vas d'abord t'occuper de son règne, tu vas d'abord s'occuper de sa volonté, puis pour ce qui te concerne toi, on verra après. D'une certaine façon, le Notre Père, il peut paraître un peu dur. C'est pour ça que Jésus insiste, avant même de dire le Notre Père, avant même de l'enseigner, il y a déjà dans les versets précédents qu'on a lus, déjà une forte révélation de Dieu le Père. Et si je n'ai pas compris, pour être plus précis, si je n'ai pas eu cette révélation de cœur, cette révélation intérieure, que Dieu est mon Père, avec tout ce que ça comporte et tout ce que ça implique, je n'aurai jamais d'assurance, je serai, pardonnez-moi, toujours frustré dans la prière, j'aurai toujours l'impression d'être le grand oublié de la prière et de passer en dernier plan, mais si j'ai compris qui et mon Père Céleste, si j'ai compris aussi, c'était notre deuxième message, ce qu'est réellement dans la pensée biblique le ciel, ce qu'est cette dimension, ce lieu, cette dimension spirituelle qu'est le ciel, et que je suis pleinement enfant de Dieu, il est pleinement mon Père, et que dans le ciel, qui est désormais ouvert, dira Jésus, tout ce qui est à Jésus est à moi, tout ce qui est dans le ciel est préparé pour moi, si je n'ai pas la révélation du cœur du Père et de la richesse qui m'attend dans le ciel, j'aurai toujours un manque d'assurance, une frustration, une vie de prière qui soit monotone, qui soit routinière, répétitive. Qu'est-ce qui va libérer les chrétiens, et j'insiste même sur le fait des chrétiens évangéliques que nous sommes, qu'est-ce qui va les libérer de ce manque d'assurance? Qu'est-ce qui va libérer les chrétiens évangéliques que nous sommes des vaines redites? Parce que Jésus dit, ne multipliez pas des vaines paroles, arrêtez de répéter toujours les mêmes choses. Vous avez un Père dans le ciel, votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous le lui demandiez. La révélation du Père va donner une autre dimension, un autre relief, une autre couleur à ma vie de prière. Et par conséquent, c'est la révélation du Père et la révélation du ciel qui vont me libérer des vaines paroles, des vaines redites, stériles, qui ne produisent rien et qui en plus sont fatigantes, autant pour celui qui les prononce que pour ceux qui sont autour et qui les entendent. Ensuite, après avoir reçu la révélation du Père et la révélation du ciel, Jésus va commencer en disant « que ton nom soit sanctifié ». Plus exactement, Jésus va continuer en disant « que ton nom soit sanctifié ». C'est réellement un point fondamental. Et ce point, que ton nom soit sanctifié, résume bien la personne et l'œuvre de Jésus. Il résume l'objectif que Jésus poursuit par sa vie, par son œuvre, par sa présence sur la terre, par sa mort, par sa résurrection. Si le Notre Père est une prière à vivre, si c'est une prière qui nous élève, j'affirme aussi que le Notre Père est une prière qui nous engage. Lorsque, évidemment, Jésus dit « que ton nom soit sanctifié », on sait très bien que le nom de Dieu n'a pas besoin de sanctification. Nous, on a besoin de sanctification. Nous, on a besoin de se mettre à part, saint, littéralement en grec « agios », mis à part pour lui, mis à part pour Dieu. Et ensuite, sanctifier au sens où, une fois que je suis mis à part pour Dieu, je vais marcher de progrès en progrès, de gloire en gloire, en étant toujours de plus en plus ressemblant à la nature, au caractère, à la personne de mon Seigneur. Mais le nom de Dieu, il est parfait. Le nom de Dieu est excellent. Son caractère, sa personne, ce qu'il est, Dieu n'a pas besoin, alors que l'on sait de par l'Écriture qu'il n'est atteint par aucun virus, je parle spirituellement parlant, par aucun mal. Dieu n'a jamais été atteint par le péché. Il n'y a même pas en lui l'ombre du début d'une mauvaise pensée. Une simple mauvaise pensée, une simple mauvaise motivation, ne serait-ce qu'un simple mauvais désir. Tout ça, chez Dieu, ça n'existe pas. C'est une perfection absolue. Et Jacques dira que chez lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il est le Père des Lumières. Il est dans une perfection absolue. Le nom de Dieu n'a absolument pas besoin de sanctification. Alors, qu'est-ce que veut dire Jésus ? Ici, le désir, bien plus que le désir, l'aspiration de cœur, la motivation de Jésus, qui doit être aussi la nôtre, dans la prière, dans notre vie quotidienne, dans ce que nous disons, dans ce que nous faisons, dans ce que nous recherchons, c'est que le nom de notre Papa Céleste soit pleinement honoré, qu'il soit pleinement glorifié, qu'il soit pleinement reconnu, qu'il soit élevé. Ça doit être ma préoccupation première dans la prière. La préoccupation première de ma vie chrétienne, Jésus en Jean 12 dit « Seigneur Père, glorifie ton nom ». Et Jésus vivait pour la gloire du nom du Père, certainement pas pour le sien. Personne mieux que Jésus, personne plus que Jésus n'a eu cette préoccupation pour le nom de son Père. Il a été jusqu'à renoncer à lui-même, pas seulement renoncer à ce qu'il possédait, renoncer à lui-même, pas seulement par amour pour nous, ce qui est extraordinaire, mais il a renoncé à lui-même par amour du nom de son Père Céleste. Sa préoccupation première, c'était que le nom du Père soit toujours reconnu. C'est la marque de fabrique de tous les grands hommes de Dieu. Quand vous pensez à un homme comme Moïse, on voit en Exode 32, pas que là, mais entre autres, on voit sa passion pour le nom de Dieu. Exode 32, Moïse, on le sait, est sur la montagne. Le peuple, dans la plaine, est resté auprès d'Aaron et le peuple commence malheureusement à s'impatienter. Et malheureusement, Aaron ne va pas remplir son rôle de leader spirituel parce qu'il ne va pas tenir le peuple. Il va simplement donner au peuple ce qu'ils veulent pour lui être tranquille. Moïse a une préoccupation pour le nom de Dieu. Aaron, pardon, il pense à une chose, c'est à être peinard. Le peuple s'impatiente et il va commencer à mettre la pression sur Aaron. Aaron va céder à cette pression et on sait que de cette pression, de cet épisode triste, va sortir cette abomination qui est le veau d'or. Et Dieu avertit Moïse et lui dit à un moment dans Exode 32, « Va, descends, parce que ton peuple, ce peuple s'est corrompu. Maintenant, ma colère va s'enflammer contre eux. » Et là, on voit cette réaction extraordinaire de Moïse qui, alors que Dieu lui propose même de se débarrasser du peuple et de faire de lui une grande nation, on voit tout de suite Moïse réagir, non pas par intérêt, non pas pour son confort, non pas pour son bien-être. Il pense à une chose, c'est que si jamais le peuple est détruit, le nom de Dieu va être bafoué aux yeux des païens. Et il fait cette prière extraordinaire, je paraphrase, c'est comme si Moïse disait, « Seigneur, si ta colère s'enflamme, tes ennemis, en l'occurrence les Égyptiens, vont la prendre. » Et ils vont dire que c'est pour leur malheur que tu les as fait sortir et c'est donc ton nom qui va être discrédité parce qu'on va dire, on va penser, Seigneur, que toi, tu n'étais pas capable de prendre soin de ton peuple. Seigneur, c'est ton nom qui va être sali. Et pour Moïse, que le nom de Dieu soit sali, que le nom de Dieu ne soit pas reconnu, ne fasse pas autorité même parmi les païens, que la bouche des païens qui sont vindicatifs ne soit pas clouée, c'était insupportable. Moïse ne pensait pas à lui. Pour lui, il fallait absolument que dans cette situation de péché, de rébellion, d'abomination, d'idolâtrie, peu importe, il fallait que d'une façon ou d'une autre, le nom de Dieu s'en sorte honoré. Le nom de Dieu, c'est le motif de ma vie de prière. C'est aussi le moteur de ma prière, le moteur de mon intercession. Moïse, comme Jésus, comme tant d'autres, ne voulait pas que le nom de Dieu soit bafoué, dévalorisé aux yeux de ceux qui ne croient pas, mais que son nom soit connu, qu'il soit reconnu, qu'il soit toujours élevé en distinction, que le nom de Dieu, d'une façon ou d'une autre, reste au-dessus. Vous regardez un homme comme le roi Asa, on en avait parlé lorsque on avait abordé cette thématique « Chercher l'Éternel ». Le roi Asa, lorsque ses ennemis marchent contre lui, c'est dans la bonne période de sa vie. Lorsque ses ennemis marchent contre lui, Asa fait cette prière extraordinaire. Il dit « Seigneur, nous nous appuyons sur toi. Nous sommes venus contre cette multitude nombreuse. » Il y avait 1 million d'hommes en face de lui, hein, c'était pas rien. « Nous sommes venus contre cette multitude nombreuse en ton nom. » Et il fait juste cette simple prière. Il ne s'occupe pas de son règne. Il ne s'occupe pas de savoir comment il va s'en sortir. Il dit juste « Seigneur, dans cette situation, que ce ne soit pas l'homme qui l'emporte sur toi. » Il a une préoccupation pour le nom de Dieu. Et parce qu'il a une préoccupation pour le nom de Dieu, vous comprenez que ce n'est pas des mots, ce n'est pas de la manipulation, parce que Dieu sait au fond de nos cœurs ce après quoi on court réellement, ce après quoi on soupire vraiment. Ce n'était pas de la manipulation, c'était vraiment une prière de cœur, la prière d'un homme qui avait un amour sincère, fervent, et qui, pour qui le nom de Dieu était au-dessus de tout, et il ne fallait surtout pas, peu importe ce qui se passera ici-bas, peu importe ce qu'il touchera ou ne touchera pas, peu importe ce que ça lui coûtera, Seigneur, du moment que toi tu t'en sors intact, c'est tout ce qui m'intéresse. Et on sait que, par la grâce de Dieu, Asa a remporté une très grande victoire. Lorsque vous regardez un homme comme Daniel, Daniel, lui, il est face à une promesse de Dieu, puisqu'il a déjà eu en sa possession, entre ses mains, le livre du prophète Jérémie. Et dans Daniel 9, il dit « Lorsque j'ai eu entre les mains le livre de Jérémie, j'ai vu par ce livre qu'il devait s'écouler 70 ans pour le retour des Juifs, etc. etc. » Les promesses de retour de captivité. Et à ce moment-là, il y a quelque chose qui est extraordinaire dans l'intercession de Daniel, ça mériterait, ce serait toute une étude, ce chapitre 9 de Daniel. Mais il y a quelque chose qui ressort fortement, c'est sa préoccupation pour le nom de Dieu. « Seigneur, vois les ruines, je paraphrase, regarde, Seigneur, ton sanctuaire dévasté. » Et le moteur de sa prière, l'un des pivots de sa prière, c'est « Seigneur, toi qui t'es fait un nom, comme il l'est aujourd'hui, si je regarde les siècles passés, ton nom a toujours été honoré d'une façon ou d'une autre. Toi qui t'es fait un nom comme aujourd'hui, et le moteur de ma prière, ce qui va me motiver au plus profond de mon être, Seigneur, c'est que ton nom continue à rester au-dessus. Regarde, Seigneur, la ville, en parlant de Jérusalem, la ville sur laquelle ton nom est invoqué. Car ton nom est invoqué sur cette ville et sur ton peuple. » Et Daniel n'a pas foncé, tête baissée, en disant « Oui, il y a des promesses de Dieu, il faut y aller, il faut foncer. » Et puis, non, Daniel, face aux promesses de Dieu, il a cherché Dieu, il s'est mis sur sa face, il a intercédé pour des coupables, c'est un type du véritable intercesseur, et le véritable intercesseur placé entre Dieu et les coupables, il se préoccupe pas seulement du salut des coupables, il se préoccupe surtout du nom de Dieu. Parce que dans toutes les situations qu'on peut traverser, frères et sœurs, c'est le nom de Dieu qui est sali. Seigneur, comment est-ce que dans ma famille, comment est-ce que dans cette situation professionnelle, comment est-ce que dans cette situation de santé, comment est-ce que ton nom, il pourrait être honoré, élevé? Non pas, Seigneur, comment est-ce que moi je vais m'en tirer? J'ai un Père dans le ciel qui sait tout ce dont j'ai besoin avant même que je lui demande. Donc je peux me préoccuper, sachant que j'ai déjà tout et que Jésus a promis tout le reste, je peux me préoccuper de lui d'abord. Et la préoccupation, c'est comment je vais m'en tirer, Seigneur? Non, la préoccupation, c'est Seigneur, comment tu vas t'en tirer? Vous savez, quand on vous regarde avec ce air narquois, mesquin, cynique, méprisant, il est où ton Dieu? Ça t'apporte quoi d'aller à l'église évangélique? On vous l'a jamais mis dans les dents, celle-là? Ben si, puis vous allez la voir encore. Et à ce moment-là, la motivation, le moteur de toutes ces prières, de tous ces hommes de prière, c'est réellement cette passion pour le nom de Dieu. Moïse l'avait, Asa l'avait, Daniel l'avait. Vous regardez David face à Goliath. L'enjeu, on l'avait étudié dans Triompher de nos géants. David n'a pas cherché à se faire un nom. Il savait qu'il y avait une armée entière qui le regardait. Tous les yeux étaient braqués sur lui. Mais David, lui, quand il parle à Goliath, quand il parle à Saül, quand il parle, la seule chose qui le préoccupe, c'est le nom de Dieu. Et chaque fois qu'il prend la parole, il dit à Saül ou à Goliath ou à d'autres, cet incirconcis, il a bafoué, il a insulté le nom de Dieu. Et pour David, ça c'était insupportable. Il y a ce passage extraordinaire où Goliath, après avoir maudit David, le menace de le tuer, de donner sa chair à manger aux oiseaux du ciel, etc. etc. Et David dit à Goliath, tu marches contre moi avec l'épée, la lance, le javelot. Mais moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu d'Israël que tu as insulté. Et ce qui a été son moteur, et ce qui l'a fait en quelque sorte transcender tout ce qui aurait pu l'arrêter à ce moment-là, alors que tous ils étaient arrêtés, c'est justement cette passion, cet engagement, cette adoration pour le nom de Dieu. Et c'est ça qui l'a amené à transcender tout ce que les autres n'avaient pas pu transcender. Parce que Saül, ça faisait longtemps que le nom de Dieu, il avait un bon trône, ça faisait longtemps qu'il était installé. Le nom de Dieu, voilà quoi, ça ne l'intéressait plus. Aujourd'hui, dit David, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai, je te couperai la tête, je donnerai ton cadavre au camp des Philistins, aux oiseaux du ciel, aux animaux de la terre. Et j'aime beaucoup cette phrase, David conclut non pas en disant « Et !» On saura que c'est moi qui étais oint pour être le prochain roi d'Israël. C'est moi le pasteur. C'est moi le roi. Et David dit, et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Ce sont des prières qui, moi, trouvent un écho dans mon cœur, qui non seulement m'interpellent, mais qui me passionnent aussi. Et quand je vois le cœur de ces hommes quand ils ont prié et qu'ils ont placé le nom de Dieu au pinacle et qu'ils l'ont mis là en exergue, qu'ils l'ont placé au plus haut point, peu importe ce qui se passait, le nom de Dieu, ils le ramenaient toujours au plus haut. Ah, je comprends qu'ils aient eu autant d'exaucements, autant de victoires, etc., etc., etc. Moïse, Asa, Daniel, David, et je termine avec un que j'aime beaucoup. Je vous en reparlerai bientôt, un de ces dimanches. C'est Josué, puisque là, dans la série « À la conquête de nos Jéricho », je vous ai montré quelle était la signification, la valeur spirituelle de Gilgal. Et dans tous les textes qu'on verra ensemble plus tard, il y a quelque chose qui n'est pas un détail, c'est un point important, qui passe inaperçu dans les textes. C'est qu'en réalité, lorsque Josué, après la victoire que Dieu, dans sa grâce, lui a donnée sur Jéricho, soyons très clairs, une fois que Jéricho a été vaincu, l'erreur de Josué, c'est qu'il n'est pas retourné à Gilgal. Ah, je ne vous fais pas la signification spirituelle, tout est enregistré. Il n'est pas retourné à Gilgal. Il est parti de Jéricho vers Haï. Et on voit dans d'autres textes plus tard, après la défaite d'Haï, que Josué, après chaque victoire, après chaque conquête dans le pays, il prenait toujours le soin de revenir à Gilgal. C'est la position spirituelle fondamentale dont on a parlé certains dimanches. On en reparlera encore. Il revenait à Gilgal. Mais malheureusement, cette première fois-là, un peu comme grisé par la victoire, Josué, il n'écoute plus Dieu, il n'a plus besoin de Dieu parce que du coup il est vainqueur, et il écoute ses conseillers, il commence à juger les circonstances visibles au lieu de juger au spirituel, il voit la petite ville d'Haï, il entend ses conseillers, il se dit c'est bon, allez, on y va, on fonce. Et malheureusement, c'est la catastrophe. Et une fois que c'est la catastrophe, Josué chapitre 7, Josué déchire ses vêtements, il se tient devant Dieu et il prie. Et il y a beaucoup de chrétiens qui, dans l'échec, prient, mais il ne se passe rien. Parce que prier, ça ne suffit pas. Il faut prier avec les principes bibliques. Et Josué, il commence déjà là, dans sa prière. Alors c'est sûr qu'il s'est humilié. On pourrait dire, oui, Josué, il a jeûné. Mais Josué, il a jeûné sans se préoccuper du nom de Dieu. Parce que dans son jeûne, dans son humiliation, en déchirant ses vêtements, en mordant la poussière, en prenant le sac et la cendre, qu'est-ce qu'il fait, Josué? Il dit, ah Seigneur, si seulement on n'avait pas passé le Jourdain. C'est sûr, maintenant, ben, refais ton passé. Alors, jeûner pour refaire son passé, ça ne sert à rien du tout. Il refait son passé. Et c'est très grave ce qu'il dit, parce que passer le Jourdain, on sait très bien la symbolique du baptême, l'entrée dans la vie nouvelle, etc. C'est que quelque part, Josué est en train de dire ce que des tas de chrétiens pensent tout bas sans le dire tout haut. Mais si c'est pour avoir des problèmes comme ça, à quoi ça sert que je sois devenu chrétien? C'est ça que certains pensent et ne veulent pas dire. Mais Josué, il l'a dit à sa façon. Ah Seigneur, pourquoi est-ce qu'on a passé le Jourdain? Si seulement on n'avait pas fait ci, si seulement on n'avait pas fait ça, si seulement, eh ouais. Et c'est seulement au moment où Josué, dans sa prière, va retrouver du bon sens spirituel, il va inverser la flèche, il va remettre la flèche de la prière dans la bonne direction, et là il va dire, mais Seigneur, que feras-tu pour la gloire de ton grand nom? Et au moment où il dit, Seigneur, que feras-tu pour la gloire de ton grand nom? Le contact est renoué. La prière va dans le bon sens, Dieu se manifeste, il se révèle. La première chose qu'il dit à Josué, il lui dit, lève-toi, je vais t'expliquer ce qui se passe. Il y a un problème d'interdit au sein du peuple, etc. etc. Une fois que tu auras réglé ça, tu vas t'y prendre comme ça et comme ça et comme ça, et tu auras la victoire sur Haï. Et il a eu la victoire sur Haï. Parce qu'il n'a pas voulu remporter Haï pour lui, il est retourné à la conquête d'Haï pour le nom de Dieu. Et c'est ça qui a fait toute la différence. J'arrête là pour ce soir. Mais je ne sais pas dans quel contexte vous êtes, vous, ce soir. Est-ce que, peut-être, vous êtes dans une situation de péché? Ou vous êtes peut-être affecté, comme Moïse l'était, affecté par le péché des autres? Et dans ce cas-là, la tentation est grande de juger, de casser, de rejeter, de vouloir s'en sortir soi, d'abandonner l'autre, etc., etc. Non, Moïse était soucieux de la grandeur du nom de Dieu. Peut-être, comme Asa, vous êtes face à des circonstances hostiles, contraires. Et dans vos circonstances, c'est légitime à un moment de se dire « Mais comment je vais m'en sortir de ce truc ?» Ou à un moment, je reviens au bon sens de la prière et de dire « Seigneur, que ce ne soit pas l'homme qui l'emporte sur toi dans cette situation. » Peut-être vous êtes comme Daniel. Ça fait un moment. Alors vous, ça fait peut-être pas 70 ans. Mais ça fait peut-être des années que vous êtes là, confronté à une promesse de Dieu. Puis vous ne la voyez toujours pas s'accomplir. Et ce qui a motivé Daniel pour prier, pour que cette promesse s'accomplisse, c'était que la grandeur du nom de Dieu soit toujours reconnue. Peut-être comme David, vous êtes face à un géant. La seule chose qui va vous amener à aller plus loin, à transcender vos peurs, à faire ce que peut-être d'autres n'ont jamais fait, c'est simplement cette passion qu'avait David pour le nom de Dieu. Peut-être vous êtes comme Josué, dans une situation d'échec, quelle que soit la forme de l'échec que vous traversez. Et puis peut-être que vous êtes comme Josué en train de vous dire « Ah, si j'avais pas fait ci, ah, si j'avais parlé plus, ah, si j'avais parlé moins, ah, si j'avais pas fait ci ». Et comment je vais dire? Et qu'est-ce que je vais dire? Et comment je vais me justifier? Et... Ou alors à un moment de dire, Seigneur, mais finalement il n'est pas question de moi, il est question de toi, c'est ton nom qui est déshonoré. Seigneur, qu'est-ce que tu vas faire pour la gloire de ton grand nom? Comment ton nom, dans ma situation, quelle qu'elle soit ce soir, comment ton nom va être honoré, sanctifié, élevé, mis à part, reconnu, mis au plus haut point? Et si on prie, non pas des mots évangéliquement correct, mais si on prie de tout notre cœur pour que le nom de Dieu soit élevé, Dieu va se manifester parce qu'il est grand, parce qu'il est fidèle, parce qu'il fait toutes choses pour la gloire de son nom et aussi pour notre bien, parce qu'il a promis tout le reste. Amen.